Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du Grain à Moudre. Ce soir, la politique migratoire est-elle une affaire d'État ? Pour qui revient de vacances et se demande si les tensions en Europe autour des migrants se sont atténuées, le constat de prime abord est que rien ou presque n'a changé. Ceux, les migrants qui avaient pris place à bord d'un navire des gardes-côtes italiens, ont bien fini par débarquer en Sicile durant le week-end, mais après une attente de plusieurs jours, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, refusait leur entrée sur le territoire tant que les autres pays de l'Union européenne ne faisaient pas preuve de davantage de solidarité. Alors l'Europe désunie sur la question migratoire, c'est pourtant un autre visage qu'elle a montré le mois dernier en soutenant à l'ONU un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Derrière cette appellation peu engageante, il y a un véritable événement. 192 pays qui se mettent d'accord autour de l'idée que la migration est un phénomène mondial qui suppose donc une coordination internationale. Une approche qui tranche avec les discours politiques purement nationaux et qui renvoie à d'autres exemples de coopération sur des sujets globaux, comme par exemple les enjeux climatiques et environnementaux. Alors de là à s'inspirer de la COP21 pour en dupliquer le principe sur le sujet des migrations, pourquoi pas ? Mais comment mettre en place une telle approche sans porter atteinte à la souveraineté nationale ? Alors, la politique migratoire est-elle une affaire d'État ? C'est le sujet dont nous discutons ce soir. En compagnie de deux invités, Mireille Delmas-Marty, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur honoraire au Collège de France. Vous avez publié au Seuil en 2016 « Aux quatre vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation ». Vous plaidez notamment pour une gouvernance mondiale du droit des migrations. Et pour discuter avec vous, François Jumaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège. Et vos travaux portent justement sur la gouvernance des migrations et l'adaptation au changement climatique. Alors ce soir, on va donc parler notamment de ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui a été adopté le 13 juillet dernier, qui devra être définitivement entériné. Ce sera à Marrakech, au Maroc, à la mi-décembre. C'est un pacte dont on n'a pas entendu parler. C'est un pacte qui ne vient pas de nulle part puisqu'il est issu d'une déclaration de New York qui date, elle, de septembre 2016. C'était déjà l'Assemblée générale de l'ONU. Et dans cette déclaration, on pouvait déjà lire ceci. S'il y a un enseignement à tirer de l'expérience de ces dernières années, c'est que les différents pays ne peuvent résoudre individuellement ces problèmes liés aux migrations. Est-ce que vous considérez l'un et l'autre que cet enseignement, que les pays ne peuvent pas résoudre individuellement le problème, que cet enseignement a été tiré? Autrement dit, est-ce qu'il y a davantage de coopération sur les questions migratoires aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a encore 2 ans?
En tout cas, la question est posée et je pense que là, on a une sorte de modèle de gouvernance mondiale qui commence à se mettre en place. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une sorte de modèle climat, en fait. Parce que j'avais même dit à l'époque des accords de Paris, au fond, d'une certaine manière, le dérèglement climatique, c'est peut-être une chance pour l'humanité si ça amène, alors qu'il est encore temps, à mettre en place une gouvernance mondiale, pas seulement pour le climat, mais pour toutes les questions qui dépassent les compétences d'un seul État, du point de vue, pas juridique, mais du point de vue pratique. Or, c'est vrai que en matière de climat, aucun État ne peut faire face tout seul au dérèglement climatique, c'est une évidence. Et malgré cette évidence, les États ont du mal à se mettre d'accord. Et en matière de migration, c'est peut-être moins évident vu de loin, mais vu de près, c'est aussi une question qui ne peut pas être traitée par un seul État, ne serait-ce que parce qu'il y a toute une cascade d'États qui sont mis en cause, qui sont concernés. Donc je crois qu'on voit se dessiner quelque chose comme une souveraineté. Moi, je ne dirais pas que les États perdent leur souveraineté, mais une sorte de transformation, de métamorphose de la souveraineté, d'une souveraineté solitaire qu'on exerce tout seul de façon absolue. Chacun est maître chez lui, charbonnier est maître chez lui, c'est une vieille formule qu'on entendait dans les années 30. Et en même temps, cette souveraineté qui n'est plus solitaire, elle reste là et elle devient ce que j'appellerais une souveraineté solidaire. C'est-à-dire que chaque État est souverain non seulement pour défendre ses intérêts nationaux, mais aussi pour prendre en charge une partie des biens publics mondiaux, une partie des intérêts mondiaux.
Ce qui pourrait contribuer à concilier cette notion effectivement de souveraineté nationale avec cette notion d'interdépendance. Vous disiez c'est évident sur les questions climatiques, peut-être que ça l'est un petit peu moins sur les migrations. Vous qui travaillez à la fois justement sur les questions environnementales, François Gemène, et sur les phénomènes migratoires, est-ce que vous diriez justement qu'on est dans le même type d'interdépendance? Et est-ce que si interdépendance il y a dans les deux cas, est-ce qu'elle est plus difficile à aborder, à accepter dans un cas que dans l'autre?
Ce qui est certain, c'est que les questions climatiques et les questions migratoires nous posent au fond la même question. Cette question, c'est celle de notre rapport à l'autre, à ce qui se passe au-delà de nos frontières nationales. Et donc ce sont deux questions qui, par excellence, demandent, appellent une coopération internationale. Et il est évident que si cette coopération internationale avait semblé évidente sur le climat, on a mis en route le processus de coopération internationale sur le climat dès le début des années 90, on pourrait même dire dès 1988, avec la création du GIEC, sur les questions de migration internationale, jusqu'ici, les États étaient extraordinairement réticents à mettre ensemble cette compétence. On le voit au niveau européen, avec aujourd'hui la montée de gouvernements populistes qui chacun pense qu'ils géreront mieux le problème à l'intérieur de leurs frontières nationales. Et donc il y avait une réticence des États à coopérer sur cette question. C'est là où le pacte mondial sur les migrations est intéressant, puisqu'il reconnaît, je dirais peut-être pour la première fois dans un document formel adopté internationalement, le besoin impérieux de coopération internationale sur ces questions, et qu'il met en branle potentiellement un processus de coopération qui pourrait être comparable à celui du climat, puisque le pacte mondial prévoit notamment des réunions régulières pour évaluer les progrès, et donc on voit se mettre en place un embryon de COP, comme il en existe pour le climat.
Restons sur cette question des réticences qui n'ont pas complètement disparu, c'est le moins qu'on puisse dire. On le voit en Europe, mais on le voit aussi par exemple en ce moment avec cette crise politique au Venezuela, avec énormément de réfugiés vénézuéliens qui essaient d'aller au Pérou ou au Chili, avec des pays qui commencent à durcir un petit peu leurs conditions d'entrée. Ces réticences, elles tiennent à quoi essentiellement selon vous, François Gemène?
Je pense qu'elles tiennent avant tout à une question symbolique et culturelle autour de la frontière qui est agitée comme une sorte de totem symbolique, de marqueur d'identité nationale. Je suis frappé, par exemple, pour prendre une comparaison en Europe, de voir que lorsqu'il s'est agi de créer la monnaie unique, l'euro, les gouvernements participants ont accepté de confier les rênes de leur politique monétaire à une instance supranationale, la Banque Centrale Européenne. Or, la politique monétaire, ça concerne l'ensemble des citoyens européens, ça concerne le pouvoir d'achat de chacune et de chacun. Sur la politique d'asile, qui pourtant ne concerne que quelques dizaines de milliers de personnes dans chaque pays chaque année, une frange très réduite de la population, il y avait cette réticence absolue à l'idée de créer une agence européenne de l'asile qui demeure aujourd'hui. Le projet dans les cartons de la Commission européenne depuis mars et personne n'en veut à l'heure actuelle.
C'est vrai que c'est assez frappant à la différence qu'il peut y avoir entre l'approche par rapport à la souveraineté monétaire, même si tous les pays de l'Union européenne n'ont pas adopté l'euro, mais Raïd Elmas Parti, justement certains parce qu'ils souhaitaient conserver cette souveraineté, mais en tout cas cette différence d'approche entre souveraineté monétaire et puis souveraineté sur la question migratoire. La frontière, c'est peut-être pas, si ce n'est le dernier instrument de la souveraineté, c'est en tout cas un des plus importants.
Oui, en tout cas c'est un symbole très fort, c'est vrai.
Même s'il y a eu Schengen, il y a eu Schengen,
même s'il y a toujours Schengen. Même s'il y a les accords de Schengen, mais avec toutes les limites qu'on connaît maintenant, les remises en cause. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre élément qui explique aussi la réticence des États, peut-être même deux autres éléments, c'est que les acteurs de la gouvernance mondiale dans le cas de la COP21 ou dans le cas des migrations et du Global Compact sont pas seulement les États. On est habitué à un droit international qui est un droit entre États. Les seuls intervenants sont les États. Or là, on voit la montée en puissance d'autres acteurs. Alors, les organisations internationales, mais c'est peut-être pas ça qui dérange le plus les États, parce qu'ils sont très présents. Mais en revanche, le rôle de la société civile, c'est-à-dire en fait les scientifiques d'abord, ils ont joué un rôle déterminant, les climatologues notamment, dans le domaine du climat, les climatologues, les économistes aussi, d'une certaine manière. Et je dirais que dans le domaine des migrations, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire. Il y a le rôle des démographes, qui est extrêmement important pour comprendre les flux migratoires. Et il y a le rôle des anthropologues, qui se sont beaucoup mobilisés dans les lieux de rétention ou de détention. Alors, il y a peut-être la crainte d'être concurrencer parce que il est probablement vrai qu'une gouvernance mondiale ne va pas se construire sur le modèle d'une gouvernance nationale. Il y aura sans doute une place plus importante aux acteurs non étatiques. Et ça, c'est quelque chose qui peut préoccuper les États.
Et ça pourrait être quoi le rôle d'un acteur non étatique? Prenons le cas, je sais pas, d'ONG, de scientifiques, de collectivités.
Ce sont des lanceurs d'alerte déjà. Ouais. Alors, des lanceurs d'alerte, c'est dérangeant. Ensuite,
mais l'alerte sur les migrations, ça peut être de quel ordre? De dire attention, les migrants arrivent.
Non, c'est pas ça. C'est pas attention, les migrants arrivent. C'est de montrer comment la démographie s'organise de telle manière que les pays du Sud deviennent beaucoup plus importants en nombre et que qualitativement, il y a une sorte d'urbanisation qui se développe plus dans le Sud avec des conséquences directes sur les migrations. Donc il y a ce facteur-là, mais je pense qu'il y a aussi la question qui préoccupe les États, c'est leur responsabilité. Alors il s'agit pour le moment de dispositifs qui ne sont pas contraignants, mais on a vu pour le climat que les dispositifs non contraignants du droit international peuvent entrer dans le champ du droit national et faire l'objet de sanctions des juridictions nationales. Donc ce n'est pas exclure qu'on ait le même phénomène en matière de migration.
Pour avoir une gouvernance mondiale, en tout cas davantage de coopération, il faut aussi pouvoir travailler sur des données, qui sont des données recoupées, qui sont des données fiables. C'est ce que prévoit alors notamment ce fameux pacte mondial pour des migrations qui vise à compiler les données. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs, François Gemmell, qu'aujourd'hui on manque peut-être d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour apprécier vraiment est-ce que sont les migrations aujourd'hui et comment elles vont évoluer à l'avenir ?
Certainement. Je ne dirais pas qu'on manque de données quantitatives ou qualitatives. On manque par contre d'organisation et de structuration de ces données. Et là, je vois une différence tout à fait essentielle entre la question du climat et la question des migrations, où la recherche joue un rôle évidemment fondamental des deux côtés. Sur le climat, on a un groupement scientifique, le GIEC, qui est mandaté par l'ONU pour produire des rapports. Et vous l'avez dit, je travaille à la fois sur le climat et sur les migrations. Je vois qu'il y a un rapport avec le politique tout à fait différent. Sur le climat, lorsque nous produisons un rapport, une étude, on sent quand même qu'il y a une certaine forme d'écoute de la part des politiques. Il est facile de rencontrer des ministres du climat ou de l'environnement. Sur la question des migrations, je n'ai jamais rencontré un seul ministre de l'Intérieur de ma vie. Et donc, on sent qu'il y a une sorte d'opacité totale, ou plutôt d'imperméabilité totale entre le monde de la recherche et le monde des décideurs, qui n'existe pas du tout dans le cas du climat.
Et il y a parce que le discours des scientifiques et le discours des politiques est totalement différencié, en tout cas pour un certain nombre de politiques. C'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas moi, à chaque fois que je reçois des gens qui travaillent sur les migrations, que finalement c'est toujours un petit peu la même chose qu'on entend. C'est-à-dire la migration, c'est une chance, c'est un facteur de prospérité et une difficulté aussi peut-être à prendre en compte ce que cela fait sur le plan politique. Enfin, si on voit autant de mouvements populistes, nationalistes qui ont le vent en poupe, c'est aussi parce que ces questions-là, elles ne sont pas perçues comme étant des chances pour tout le monde.
Je le crois. Je pense qu'il y a une très forte différence aujourd'hui entre la réalité statistique des faits ou des chiffres et la perception que peuvent en avoir les populations ou les gouvernements. Et ça, je pense, cette dissonance n'a pas suffisamment été prise en compte. C'est intéressant de voir qu'avant l'été, par exemple, un groupement de chercheurs a lancé un appel pour un GIEC des migrations, en disant qu'il faut que nous ayons une sorte de socle de base scientifique pour que les politiques migratoires puissent être prises sur la base de faits objectifs plutôt que sur la base de considérations idéologiques ou sondagières.
Oui, c'est la question que j'aurais voulu vous poser justement, puisque vous faites partie du GIEC climat. Est-ce que vous pensez que c'est imaginable, cette proposition des anthropologues essentiellement, je crois, mais de créer une sorte de panel d'experts, le GIEC c'est ça, c'est un panel d'experts qui fait l'interface entre le scientifique et le politique. Et qui en même temps, je dirais, dans la mesure où il y a du juridique qui s'instaure, qui permet de faire aussi l'interface avec le juridique. Parce que le GIEC, il donne des références, il donne des évaluations quantitatives et qualitatives. Donc est-ce que ça, c'est transposable quand on a l'expérience de terrain du GIEC ?
Je pense que c'est possible et souhaitable. Ça ne sera pas évident, et je pense que ça serait une erreur de copier exactement toutes les procédures du GIEC. Il faudra s'interroger sur qui nomme bien les chercheurs, quelles sont les procédures pour gérer les incertitudes notamment. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'avoir effectivement un socle commun de connaissances sur lesquelles puissent s'appuyer les politiques migratoires.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce socle commun, qu'il y ait aussi une volonté politique, alors qui s'exprime certes à travers ce pacte, mais on voit bien qu'entre ce qui se passe à l'Assemblée générale de l'ONU et puis les discours qui peuvent être tenus sur le plan national, il y a quand même un certain écart, même si pour la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les migrations, à savoir la canadienne Louise Arbour, les choses sont en train de changer. En tout cas, c'est le sentiment qu'elle avait en ce début d'année, c'était en janvier sur l'antenne de France 24.
Ce qui est assez encourageant de mon point de vue, c'est que bien que la perception soit souvent très négative, la réalité, en fait, est beaucoup plus positive. Et déjà, les consultations qui ont eu lieu là, dans ce processus vers un pacte mondial, au niveau des décideurs politiques, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès pour se dégager justement de ces perceptions stéréotypes, toute une mythologie au sujet de la migration qui surcaractérise par exemple les dangers, la sécurité, l'illégalité, alors que la réalité est complètement différente. La vraie réalité au niveau de la migration, c'est que ça a été historiquement, et c'est encore aujourd'hui, une énorme force de progrès. C'est une force économique importante. C'est 250 millions de migrants dans le monde travaillent, contrairement à la perception publique, et leur taux d'emploi, en moyenne, est beaucoup plus élevé que des travailleurs nationaux, et ils ne volent l'emploi de personne. De façon générale, les migrants sont employés dans des secteurs qui sont négligés par les populations locales, qui sont souvent, évidemment, sous-payés. Et malgré tout, ils envoient chez eux 15 % de leurs revenus, ce qui a contribué l'an dernier 600 milliards de dollars américains, trois fois plus que l'aide officielle que les pays riches envoient vers les pays pauvres.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Et ce soir, la question que nous posons, la politique migratoire est-elle une affaire d'État? Nous la posons au politologue François Jemaine et à la juriste Mireille Delmas-Marty. On vient donc d'entendre Louise Arbour, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur la question des migrations. Mireille Delmas-Marty qui évoquait donc ce processus qui a conduit à ce pacte mondial sur les migrations qui sera véritablement entériné au Maroc à la mi-décembre. Qu'est-ce qui rend, selon vous, absolument indispensable la mise en place d'une gouvernance mondiale sur ce sujet? Est-ce que c'est parce que les migrations, de toute manière, sont amenées, bien entendu, à se poursuivre, mais peut-être à s'accentuer?
Oui, mais d'abord, c'est ce qu'on a dit au début, c'est le mot interdépendance, parce qu'il s'agit d'un domaine dans lequel les États sont interdépendants.
Mais on a très bien vécu sans cette gouvernance mondiale jusque-là. Or, les migrations existaient déjà. Et
mais les interdépendances étaient beaucoup moins fortes. Et c'est quand même une des conséquences de la mondialisation, y compris d'ailleurs de la mondialisation économique. On a parlé de forces économiques. Ça m'a même d'ailleurs à poser la question, puisqu'on faisait tout à l'heure le parallèle avec le climat. Dans le domaine du changement climatique, les entreprises jouent un rôle essentiel parmi les acteurs de la société civile. Il y a les citoyens, les acteurs civiques, les ONG, il y a les scientifiques, mais il y a aussi les entreprises. Et on peut se demander si elles ne commenceraient pas à se mobiliser aussi dans le domaine des migrations, parce qu'elles ont des intérêts à défendre dans ce domaine. Donc les interdépendances, elles sont entre les différents acteurs, elles sont entre les différents pays, et à mon avis, on peut considérer que la mondialisation les a accrues et rend beaucoup plus difficile de traiter ces questions à l'échelle d'un seul État. Alors, cela étant, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de réfléchir sur la formule qui est utilisée en matière de climat et qui, à ma connaissance, n'a pas été reprise pour l'instant pour les migrations. C'est l'idée de responsabilité commune mais différenciée. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça aussi pour les migrations? Parce qu'au fond, responsabilité commune, ça veut dire les objectifs sont les mêmes. Et c'est là qu'on retrouve l'intitulé du pacte, qui peut paraître un peu compliqué. Les objectifs, ce sont des migrations sûres, ordonnées. Et quel est le troisième ordonnée et
alors attendez, je vais régulière. Retrouver...
Voilà, oui, régulière, voilà. Sûre, ordonnée et régulière. Ce sont trois objectifs sur lesquels, en réalité, les États semblent d'accord. Alors, on a des objectifs communs, mais pour réaliser ces objectifs, On ne peut pas exiger des responsabilités identiques d'un État à l'autre. Donc les responsabilités sont différenciées. Et ce que apporte l'accord de Paris pour le climat, que pourrait apporter le Global Compact pour les migrations, ce sont les critères de différenciation.
Alors on va justement voir quels pourraient être ces critères de différenciation.
Sans engager plus qu'un autre.
Mais en fait, effectivement,
on retrouve peut-être la dualité qui existe en matière de climat entre des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. Les critères quantitatifs, ça peut être la population, ça peut être l'indice de développement humain, l'IDH, plutôt que le PIB, produit intérieur brut. Ça peut être toutes sortes d'évaluations chiffrées en matière économique, le niveau de développement économique, mais ce sont aussi des critères qualitatifs. Des critères qualitatifs qui tiennent compte, par exemple, comme en matière de migration d'ailleurs, du passé, de l'histoire qui a précédé les migrations. Ce n'est pas la même chose quand ça concerne des pays qui ont été colonisés, par exemple, ou pas. Donc, un des rôles de cette gouvernance mondiale serait, avec l'interface entre les scientifiques, les citoyens et les États, de préciser les critères de différenciation.
Donc des responsabilités, comme vous le dites, communes mais différenciées, qui serait une transposition de la Convention climat de 92, François Gemène, est-ce que ça vous semble transposable justement à la question des migrations ? Bon, responsabilité commune, ça on peut le comprendre assez facilement et le mettre en pas. Le faire intégrer assez facilement. Différencier politiquement, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Sans doute, mais il y a quand même un point commun, je dirais, essentiel, c'est que l'État qui reçoit, quelque part, n'a pas la maîtrise des facteurs qui provoquent les migrations. Et c'est quelque part quelque chose qui crispe beaucoup les gouvernements et qui fait naître des théories fumeuses comme celle de l'appel d'air. C'est cette incapacité, quelque part, du pays de destination à contrôler les flux migratoires qui arrivent chez lui. Et donc les gouvernements restent pénétrés de l'idée que c'est le degré d'ouverture des frontières qui va leur permettre de contrôler les migrations qui arrivent chez eux, alors que cette idée n'a aucun sens dans la réalité empirique et que c'est une sorte de fantasme politique construit précisément parce que les gouvernements ont du mal à accepter cette idée que les migrations répondent à des facteurs exogènes plutôt qu'à des facteurs contrôlés par eux-mêmes. Pour le climat, c'est un peu la même chose, au fond. Les pays qui subissent les impacts du changement climatique ne contrôlent pas non plus les impacts qu'ils subiront. Et donc, c'est ça qui impose cette responsabilité commune mais différenciée, avec un deuxième principe très important qui est inscrit dans la Convention climat, c'est le principe de capacité respective, qui, je pense, peut aussi jouer un grand rôle dans la manière dont on va prendre en charge au niveau global ces migrations.
Il y a quand même une différence majeure, François Gemène, c'est que même si vous dites que finalement le degré d'ouverture ne change rien au fait qu'il y ait plus ou moins de migrants, si vous avez des gardes frontières comme en ont les pays ou comme en a l'Europe, on peut quand même, par moment, refuser l'arrivée de certains migrants. Sur les dérèglements climatiques, vous pouvez vous barricader comme vous voulez, effectivement, vous ne pouvez rien y faire. Ce qui explique aussi peut-être le fait que cette gouvernance mondiale, elle aille plus vite sur la question climatique que sur la question migratoire.
Évidemment, vous ne pouvez pas mettre des gardes frontières pour vous protéger des impacts du changement climatique, ça serait risible. En réalité, c'est tout aussi risible pour les migrations. C'est un fantasme d'imaginer que des gardes aux frontières vont empêcher les migrants d'arriver, sauf à tirer sur les gens lorsqu'ils franchissent la frontière. Ceux qui ont un besoin impérieux de franchir la frontière la franchiront de toute façon. Et donc fermer les frontières ou y poster des gardes, ça peut ralentir les migrations, ça peut les rendre plus coûteuses ou plus dangereuses, mais au final, les gens chercheront toujours à passer cette frontière. C'est pour cela qu'il y a des centaines de migrants qui sont massés à Calais ou à Grande-Synthe dans l'attente de franchir la frontière britannique, qui est pourtant hermétiquement fermée, parce qu'ils savent qu'ils la franchiront un jour ou l'autre, du style tenter 100 fois, 200 fois, 1000 fois l'expérience.
Ça veut dire que les lois nationales ne servent strictement à rien, qu'il faut dire aux États, de toute manière, quoi que vous fassiez, ça n'empêchera rien. Si les migrants veulent venir sur votre territoire ou le traverser, vous n'y pouvez rien.
Quoi que vous fassiez dans vos politiques nationales. Par contre, si vous mettez en place des schémas de coopération internationale qui permettent de gouverner ces migrations en partenariat avec les pays d'origine et les pays de transit qui soient considérés comme de véritables partenaires et pas de simples sous-traitants, alors vous allez avoir une capacité de régulation de ces migrations. Et là, il y a un changement de paradigme qui est tout à fait essentiel, à mon avis.
Marie Delmas-Sarty.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire que le droit national ne sert plus à rien. Il y a une sorte d'interaction en fait, entre droit national et droit international.
En tout cas, si vous le dites comme ça, c'est sûr que ça ne va pas contribuer à donner de l'élan à cette idée d'une gouvernance mondiale. Si vous dites aux États, bah, finalement, vous ne... ce que vous faites n'a pas vraiment d'impact. En tout cas,
oui,
il faut le faire.
Non, mais ce n'est pas seulement pour des raisons diplomatiques. Je pense qu'il y a réellement... Au fond, ce qui se met en place sous le nom de gouvernance mondiale, c'est une sorte de bricolage. Et vous savez comment définissait comment Lévi-Strauss définissait le bricolage, ou comment François Jacob, qui l'utilise en biologie, le définissait? C'est faire du neuf avec de l'ancien. Et Lévi-Strauss disait, on utilise les moyens du bord. Ben, en matière de changement climatique comme en matière de migration, c'est un peu ça. Tantôt on avance par le droit national, tantôt par le droit international. Cela dit, il y a peut-être quand même une différence apparente, parce qu'en profondeur, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il n'y a pas tellement de différence, mais la différence apparente, c'est que le territoire ne disparaît pas dans le cas des migrations, alors que parler de territoire à propos du changement climatique, ça n'a plus guère de sens. Donc on a une sorte de difficulté supplémentaire. Cela étant, il faut se souvenir de ce que disait Kant au XVIIIe siècle, c'est pas hier, quand il disait, mais finalement, il y a un principe universel qui n'est pas une règle morale, qui n'est pas une question de philanthropie, c'est le principe d'hospitalité. Pourquoi cette hospitalité? Tout simplement pour une raison géographique, parce que la Terre est ronde. Et comme la Terre est ronde, les hommes ne peuvent pas se disperser à l'infini, donc il faut bien les accueillir. Et aucun, à l'origine, n'a de droit particulier sur la planète. Donc il y a un phénomène là qu'il faut peut-être garder en mémoire et réfléchir à nouveau d'ailleurs sur cette notion d'hospitalité, parce que ça pourrait être le principe qui coiffe un peu l'ensemble du dispositif migration, de même qu'en matière de climat, on a un principe qui coiffe l'ensemble, qui est le développement durable.
Cette notion d'hospitalité, d'ailleurs, on la retrouve dans le pacte mondial sur les migrations, François Gemène.
Pas en tant que tel, je ne pense pas que le mot hospitalité apparaisse en tant que tel, mais néanmoins, on voit apparaître dans ce pacte mondial toute une série de principes assez essentiels en termes de coopération, en termes de devoirs de l'asile notamment, puisqu'on a fait au départ à la fois un pacte sur les migrations et de façon séparée un pacte sur les réfugiés qui seront amenés à se rejoindre à un moment donné. Il y a pas mal de choses sur les questions d'asile qui est quelque part une sorte de version moderne du droit international de l'hospitalité, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui est, je dirais, qui est un peu sa traduction dans le droit international.
Ça, c'est du côté des pays qui accueillent ce devoir d'hospitalité. Est-ce qu'il y a aussi des devoirs qui sont mentionnés de la part des pays dont sont originaires les migrants? Alors, même si, évidemment, il y a des situations qui sont plus ou moins compliquées. Dans un pays en guerre, j'imagine que parler de gouvernance, d'ailleurs, de gouvernance mondiale, avec la Syrie, par exemple, pour ne prendre que ce terrible exemple, ou la Birmanie avec la question des Rohingyas, là aussi, c'est quelque chose d'un peu compliqué.
Il y a un devoir de coopération qui est mentionné. Cette idée que on ne peut pas régler ces questions migratoires au niveau mondial sans avoir sur un pied d'égalité les pays d'origine, de destination et de transit. Et donc, il y a quelque part une obligation des pays d'origine, pour l'essentiel des pays en développement, à quelque part jouer le jeu. Mais il faut bien se rendre compte aussi que...
Ça veut dire quoi, jouer le jeu? Ça veut dire laisser partir moins de migrants?
Ou potentiellement accepter de reprendre une partie de ceux qui seraient renvoyés par les pays industrialisés. Un des paradoxes, quelque part, de cette coopération, c'est que l'essentiel des flux migratoires se produisent dans les pays du Sud, qu'il s'agisse des migrations dites économiques, l'essentiel sont des migrations régionales, ou qu'il s'agisse, a fortiori, de migrations forcées, puisque 86% des réfugiés dans le monde aujourd'hui sont accueillis dans des pays en développement ou dans des pays émergents. Et donc, quelque part, ce sont déjà les pays en développement qui règlent et qui gèrent l'essentiel des migrations, même si ce sont, quelque part, les pays industrialisés qui, quelque part, ont tendance à considérer ces pays en développement comme des sous-traitants.
Je reviens sur cette notion d'hospitalité, Mireille Delmas-Marty, qui n'est pas juste une notion philosophique, puisque vous êtes juriste, j'imagine que vous l'imaginez aussi comme une notion juridique, c'est-à-dire est-ce que vous y verriez une forme de droit opposable, c'est-à-dire tout migrant pourrait opposer à un pays qui refuserait l'accès à son territoire ce devoir d'hospitalité?
Mais il ne faut pas prendre le principe d'hospitalité comme un principe absolu. Mais aucun principe, très peu de principes ont une valeur absolue dans le domaine juridique. si on prend les grands textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la plupart des principes sont assortis de restrictions, voire d'exceptions. Il y a très peu de principes à protection absolue. Donc, c'est une des craintes que les gens expriment, les États expriment à propos de l'hospitalité, c'est que si on prononce le mot, ils entendent une sorte de devoir absolu. Non, c'est un principe qui permet au fait de concilier. J'ai fait le parallèle tout à l'heure avec le développement durable, parce que le développement durable permet de concilier en matière de climat ou dans d'autres domaines l'innovation et la conservation. On ne choisit pas, on cherche un équilibre. Pour les migrations, il y a à concilier l'exclusion et l'intégration. On n'oblige pas à intégrer ceux qu'ils demandent, mais en même temps, on limite l'exclusion à certains critères. On revient toujours, quand on parle juridique, on revient toujours à la question des critères.
Ça veut dire que ce ne serait pas une obligation à accueillir tous ceux qui souhaitent venir.
Voilà, ce ne sont pas uniquement des droits, ce sont effectivement des droits et des devoirs. Et ce sont des droits et des devoirs qui sont différents pour les différentes catégories de pays. Le pays d'origine, le pays de passage, de transit, le pays d'accueil. Chacun doit pouvoir connaître de façon plus précise ses droits et ses devoirs. Et la même chose pour ce qui concerne les populations d'accueil ou les populations d'immigrés. Donc il n'y a pas quelque chose comme un principe d'hospitalité absolu. Et d'ailleurs, je crois que Kant n'avait pas non plus ça à l'esprit. Mais il y a une sorte de principe de pondération entre exclusion et intégration.
Alors on verra bien si et ce principe et surtout ces objectifs du pacte mondial sur les migrations finissent par être largement adoptés, même s'il y a quand même les États-Unis qui, après avoir signé la déclaration de New York qui a donné naissance à ce pacte, les États-Unis, là c'est à l'époque de Barack Obama, avec Donald Trump, ils s'en sont retirés. Et puis l'Europe, que j'annonçais tout à l'heure, unie pas entièrement, puisque vous me disiez juste avant de commencer l'émission, François Gemen, que la Hongrie, elle aussi, choisit de ne pas participer à ce pacte.
Effectivement, il y a quelques semaines, la Hongrie a annoncé qu'elle ne ratifierait pas le pacte lors de la session formelle à Marrakech qui aura lieu les 10 et 11 décembre. Et donc, c'est un pacte.
Alors, la Hongrie, c'est un petit pays, c'est un petit pays, pardon, pour les Hongrois qui nous écoutent, mais je veux dire, à l'échelle mondiale, c'est un petit pays. Sauf que, sur cette question, ça va poser un problème à l'Union européenne pour aller un peu plus loin dans ce pacte mondial.
Et disons qu'une particularité de la Convention sur le climat, c'est que c'est un accord qui a été ratifié non seulement par les différents pays de l'Union européenne, mais également par l'Union européenne en tant que telle. Et donc la Commission européenne siège comme partie prenante. Si la Hongrie décide, bien entendu, de ne pas ratifier le pacte mondial, vraisemblablement l'Union européenne ne pourra pas non plus le faire en tant qu'entité unie. Et donc, ça sera juste chacun des pays qui sera membre. Effectivement, c'est quelque part une occasion ratée, surtout si l'on veut mettre en place une gouvernance européenne de ces migrations. Mais on voit toute la difficulté que ça pose et on voit les crises politiques qui se succèdent les unes après les autres.
Alors justement, je voulais terminer l'émission sur ce niveau européen. On a parlé de niveau national et puis de niveau mondial, mais il y a bien sûr le niveau européen avec toutes les difficultés qu'on a pu observer pendant l'été et même avant. Il y a quand même eu un sommet européen fin juin avec des décisions dont on verra bien comment elles seront appliquées, avec la création de centres contrôlés en Europe et la création de plateformes de débarquement en dehors de l'Europe. Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite réagir. Moi, je ne suis pas sûr d'ailleurs d'avoir très bien compris ce que seraient ces centres contrôlés à l'intérieur des pays européens et ces plateformes de débarquement en
ceux
dehors des
décidé,
pays européens.
Ceux qui l'ont décidé ne le savent pas non plus.
François Gemen.
Vous n'êtes
oui,
pas le seul.
Il n'y a pas beaucoup d'explications sur le... Je crois qu'ils ont lancé l'idée pour occuper un peu le terrain. Et ce n'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant pour faire avancer le problème des migrations. Mais juste, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que vous avez dit du retrait des États-Unis. Parce que les États-Unis se sont retirés aussi de l'accord de Paris sur le climat. Et finalement, ça n'a pas changé fondamentalement la situation parce que la dynamique était enclenchée. Les grandes villes américaines se sont engagées directement, elles se sont mises en réseau. Les États américains, comme la Californie, certains États américains se sont engagés. Et c'est quand même intéressant d'observer que, s'agissant d'un problème sensible, l'une des plus grandes puissances du monde se retire et ça n'arrête rien. Le mouvement est enclenché, il continue. Donc on peut se demander pour les migrations si on n'aura pas le même phénomène. Si le mouvement est enclenché, alors...
La difficulté, c'est que sur la question des migrations et contre les frontières, les villes ou les entités fédérées peuvent plus difficilement agir. On l'a vu dans le cas de l'Aquarius, quand le port de Sète se propose d'accueillir, ou le port de Bastia, il n'est pas question qu'un port l'accueille s'il n'a pas l'aval du ministre de l'Intérieur.
Il n'est pas question d'ailleurs, est-ce que c'est uniquement un obstacle juridique ou bien c'est accepté comme tel que, justement sur cette question de l'entrée dans le pays, c'est forcément le niveau étatique qui est auquel on doit se référer.
En fait, il faut sans doute distinguer l'entrée, le séjour et la circulation. Le point le plus sensible, c'est l'entrée, l'accès. Et d'ailleurs, au passage, on en a pas parlé, mais la fameuse décision du Conseil constitutionnel sur la fraternité, qui est importante pour ce débat-là, elle limite le délit dit de solidarité, mais pas pour l'accès. La question de l'accès de l'étranger au territoire national reste encadrée de façon plus répressive par le droit pénal.
Alors là, faites une référence d'ailleurs à la loi Asile et Immigration, qui a été adoptée il y a peu. Qu'est-ce qui, dans cette loi, François Gemène, laisse penser que cette idée d'une gouvernance mondiale, d'une meilleure coopération, a été aussi intégrée dans le débat politique français ?
Rien.
Absolument
rien. C'est une loi qui imagine que la France est une sorte d'exoplanète, une sorte d'île isolée du monde et de l'Union européenne et qu'elle pourra régler seule ces questions d'asile et de migration. À mon avis, la loi a beaucoup de défauts, on en a déjà parlé, mais à mon avis, un des gros manquements de cette loi, c'est qu'elle n'offre aucune perspective en termes de gouvernance européenne ni de gouvernance mondiale.
Est-ce qu'à contrario, il y a d'autres pays, peut-être de l'Union européenne ou d'ailleurs, qui prendraient davantage en compte justement cette nécessité d'une gouvernance plus large parce que interdépendance ou bien
pas,
est-ce que...
Pas véritablement. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, on a véritablement 28 régimes d'asile juxtaposés les uns aux autres sans qu'il y ait de véritables projets politiques autres que la fermeture des frontières extérieures qui s'est imposée, faute de mieux, comme le seul horizon politique. Et je dirais, c'est précisément cette absence de projet européen qui alimente aujourd'hui les crises politiques et qui alimente les populismes. On a aujourd'hui des gouvernements en Europe qui sont à la fois anti-migrants et anti-Union européenne et qui, évidemment, ont beau jeu de surjouer les crises migratoires pour en faire des crises politiques qui mettent en cause le projet européen lui-même. Et malheureusement, il est dans l'intérêt de l'Italie, de l'Autriche, de la Hongrie aujourd'hui que les crises politiques se succèdent les unes aux autres parce que chacune d'entre elles détricote un peu plus le projet européen.
Et sachant qu'on entre dans une année électorale avec les élections européennes au printemps prochain, qui seront sans doute d'ailleurs l'occasion de débats sur les questions migratoires, on n'est pas sûr, Mireille Delmas-Marty, que la question justement de la gouvernance soit une des questions prioritairement abordées dans ce débat.
Non, mais on est quand même dans un déni total de la réalité, parce que la réalité fait qu'on ne peut pas maîtriser, puisque c'était l'objectif de la loi française, on ne peut pas maîtriser les migrations à partir d'un seul pays. Donc je pense qu'il y a une sorte de contresens historique qui consiste, pour des raisons de repli frileux sur des États-nations qui sont considérés comme tout-puissants, il y a une erreur historique grave. Et heureusement qu'il y a ce Global Compact qui va peut-être faire bouger les lignes, mais malheureusement pas à partir de l'Europe. L'Europe a en quelque sorte manqué une occasion là.
Et la prochaine occasion, ce sera donc les 10 et 11 décembre, hein, si ma mémoire est bonne, à Marrakech pour véritablement entériner ce pacte mondial sur les migrations. Ce sera l'occasion de reparler de ce sujet, mais sans doute aurons-nous d'autres occasions.
Et puis,
d'ici
il y aura normalement des réunions annuelles régulières pour suivre la mise en œuvre.
Marrakech sera le commencement, justement, en fait, plus que la fin.
Eh ben merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission de Rentrée du Grain à Moudre. Merci Mireille Delmas-Marty et merci François Gemène. Je dis émission de rentrée, mais évidemment si vous étiez à l'écoute et vous l'étiez tout cet été, vous savez que le Grain à Moudre d'été a été parfaitement assuré. Un grand merci à Antoine Janton, à Raphaël Bourgois, à Malénie Chalandon et à toutes leurs équipes. Merci également à l'équipe du Grain de retour, elle aussi de vacances, Fanny Richer, Antoine Tric, Virginie Le Duo et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec aujourd'hui à la prise de son Kevin Bouisseau.